Des sons que Linus n'identifie pas clairement sortent des enceintes cachées dans le mur de la cabine. Il y a des souffles, des voix, des explosions, puis quelques notes de violon, un bruit de train, peut-être un pleur d'enfant, un miaulement de chat, une porte qui claque. Les sons se mêlent les uns aux autres, s'amplifient, deviennent grinçants, tandis que sur l'écran, les images défilent de plus en plus vite, comme des éclairs, et qu'une forte odeur de poudre envahit la cabine. Cela devient douloureux, insupportable. Linus est au bord de la nausée. Il voudrait crier, mais il n'en a même pas la force, submergé par des sensations toujours plus violentes. Un goût de métal le fait grimacer, un cri lui perce les tympans, une image rouge le fait sursauter. Brusquement, il se sent mouillé. Paniqué, il se demande s'il n'a pas fait pipi sous lui, et il commence à se tortiller sur son siège. Mais la sensation cesse brutalement, remplacée par une forte chaleur, comme s'il était assis sur un radiateur bouillant. Sur l'écran, il voit des femmes en rang, des bébés dans les bras, puis des voitures de course du siècle dernier, une fusée qui décolle, un jardin en hiver, un orchestre, une fille avec des béquilles, un tableau sombre, des étoiles. Dans sa bouche, un goût sucré se répand, lui arrachant un bref sourire. Au même moment, il ressent une douleur terrible dans le ventre, tandis qu'une voix, celle de son père, lui hurle dans les oreilles. « Tu as mangé trop de bonbons !» Étourdi par la douleur, Linus se met à gémir. Il n'a plus le contrôle de son corps, ni de son esprit, ni de ses émotions. Il est comme avalé par l'écran, noyé dans le ressac incessant, des bruits étouffés par les odeurs de poussière et d'eau croupie, paralysé par le froid et le chaud qui se succèdent à un rythme fou, sur sa peau tenaillée par la peur. La vue brouillée par les larmes, il n'a même plus la volonté de fermer les yeux pour que ça s'arrête. Soudain, au moment où il croit devenir fou, l'écran s'éteint, les bruits se taisent, toute sensation l'abandonne au point qu'il se sent vidé de sa propre substance. Quel est votre nom? Demande soudain la voix synthétique. Linus tremble, hoquette, éternue. Il ne comprend pas la question. Son cerveau est devenu dur et inerte comme un caillou. Quel est votre nom? Répète la voix. Dans un brouillard de mots et de pensées réduits en bouillie, Linus articule. Je ne comprends pas. Déclinez votre identité. Qui êtes-vous? Murmure Linus, la voix brisée. Votre nom? Dans un effort intense de concentration, Linus parvient à rassembler ses souvenirs. Oui, il est au centre d'examen. Il se souvient maintenant. Êtes-vous le grand ordonnateur? Demande-t-il. Votre réponse! Crie la voix. Dans la tête de Linus, le tourbillon se disloque et il ne reste bientôt qu'une sorte de courant d'air. Il tremble. Une décharge électrique lui parcourt l'échine. Il pense à Yoche. Il voudrait crier. Je suis Yoche Bresco! Mais ils se rappellent qu'ils ne doivent pas échanger leur identité. Si le système de Chem est au point, seuls leurs résultats seront intervertis. Alors brusquement, comme un noyé reprenant sa respiration, il hurle « Je suis Linus Hop !» Il y a une détonation dans la cabine, suivie d'une onde de choc qui le secoue sur son siège. Suite un brouhaha de voix et de rires, ses oreilles sifflent et l'impression que son siège avance à toute vitesse. Devant lui, un mur se dresse, un mur si haut qu'il n'en voit pas la fin. Et le siège, comme une voiture lors d'un crash test, fonce inexorablement dessus. Linus pousse un cri de terreur. Au moment de l'impact, il perd connaissance. Lorsqu'il ouvre les yeux, il n'est plus dans la cabine. Le casque et les électrodes lui ont été enlevés. Il est allongé sur un matelas, posé à même le sol, dans une salle assez vaste. Malgré la pénombre, il distingue autour de lui d'autres candidats qui reprennent leurs esprits. Linus se redresse sur un coude. Les candidats de la zone de récupération numéro 5 sont en phase de réveil, annonce une voix d'homme dans un haut-parleur. Aussitôt, une porte s'ouvre au fond de la salle et deux silhouettes s'avancent parmi les enfants allongés. C'est une femme qui s'adresse à eux. « Bien, c'est terminé pour vous, » dit-elle sur un ton encourageant. « Les résultats vous seront donnés dans un instant. Il vous reste une dernière formalité à accomplir. » La seconde silhouette, un homme, se dirige vers le matelas le plus proche. « Nous vous demandons simplement d'absorber ce cachet, » continue la femme. « Ce n'est pas dangereux, rassurez-vous, c'est seulement un petit remontant. » L'homme se penche vers l'enfant du premier matelas, puis vers un autre, et ainsi de suite jusqu'à Linus. Le comprimé dans le creux de la main, Linus hésite. Il le porte lentement à sa bouche, et là, une affreuse odeur le fait grimacer. Son estomac se soulève et une brûlure remonte dans son œsophage. Le comprimé sent la vanille. Cette odeur agit sur lui comme une douche froide. Il se réveille complètement. Les sensations effrayantes de l'examen lui reviennent, précises en mémoire. Autour de lui, les candidats avalent leur comprimé vanillé sans dégoût. Linus regarde sa main. Non, il ne peut pas. Quitte à se sentir patraque encore un moment, il décide de ne pas avaler le cachet. Plus personne ne lui prête attention. Il le glisse subrepticement dans la poche de son pantalon. « Viens, reprend la femme, lorsque tous les candidats ont été servis. Le grand ordinateur ayant comptabilisé les données, j'ai maintenant l'honneur de vous remettre vos enveloppes. Elle consulte la liste des EFGH et appelle les candidats un par un. Octavio Hébert, le premier de la liste, se relève de son matelas avec difficulté. Il vacille sur ses jambes, porte une main à son front, avance de quelques pas, puis s'arrête devant la femme. Elle lui tend une enveloppe sans faire de commentaire et sans qu'aucun trait de son visage trahisse une émotion quelconque. Octavio, si maigre, si pâle, saisit son enveloppe et retourne à son matelas en titubant. Linus observe le défilé des candidats qui vont chercher l'enveloppe où est enfermé leur destin. Aucun d'eux ne l'ouvre. L'épreuve a été telle qu'ils n'ont même plus la curiosité de savoir. Ils iront désormais là où on leur dit d'aller, à moitié sonnés, juste soulagés que ce soit fini. La fille en salopette orange, celle qui avait tant besoin d'aller aux toilettes avant l'examen, se lève en entendant son nom. Humbert Adélie. Linus sait que son tour viendra juste après. Il la suit des yeux et s'aperçoit avec dégoût qu'une large tache sombre souille la salopette de sa voisine. Elle n'a même plus le réflexe élémentaire de se cacher. Linus retient un sursaut de rage. Comment peut-on amener des enfants à se dégrader de la sorte? Comment ose-t-on leur dire qu'ils seront de bons citoyens si c'est la peur qui fonde leur comportement d'adulte? Hop, Linus, appelle la femme. Linus se met debout. Plus encore que la fatigue, c'est la colère qui lui coupe les jambes. Il pense soudain à Shem, à Yosh et même à Ismène, qui doivent subir le même sort en ce moment. Et tout en marchant au milieu des matelas, elle contemple ses camarades avec compassion, comme si ces corps étendus là étaient des soldats vaincus, terrassés par un ennemi qu'ils ne connaissent pas, et prêts à tout désormais pour qu'on leur laisse simplement la vie sauve. Lorsqu'il arrive enfin devant la femme qui lui tend l'enveloppe, il contrôle sa rage, baisse ses yeux et lâche un merci qui lui coûte beaucoup. L'enveloppe est là entre ses doigts. Mais Linus décide de calquer son comportement sur celui des autres pour ne pas éveiller de soupçons. Parce qu'il n'a pas avalé le cachet, il se méfie. Il se contente de retourner s'asseoir sur son matelas et s'applique à avoir l'air aussi hagard que ses compagnons. La femme et l'homme jettent un regard satisfait à l'assemblée, annoncent qu'ils se retirent et s'en vont, en effet. Un silence étrange flotte dans la grande salle. Certains candidats se sont carrément rallongés et ferment les yeux, leur enveloppe posée sur le ventre. D'autres, assis, les bras ballants, considèrent le carré de papier avec indifférence. Linus rampe vers Adélie Humbert. Elle est assise sur son matelas et contemple le vide. Eh, murmure Linus, ça va? La fille tourne vers lui un œil bovin. Tu n'as pas pu te retenir, continue Linus. Tu devrais demander l'autorisation de te changer. Manifestement, elle ne saisit pas un traître mot de ce qu'il raconte. Il change de sujet. Tes parents t'attendent à l'extérieur, demande-t-il. Le mot parents semble avoir une résonance dans l'esprit d'Adélie. Elle ouvre la bouche. Mes parents, répète-t-elle. Les miens s'inquiètent sûrement, affirme Linus pour entretenir cet éveil. Ils doivent être impatients de connaître mon résultat. Mon résultat. Linus fronce les sourcils. C'est à croire que cette fille est subitement devenue folle. Derrière lui, Linus entend soudain un bruit de papier déchiré et quelqu'un dire « 165 ». Linus se retourne vers la voix. C'est une autre fille, la petite renfrognée qui menait le groupe à travers le corridor tout à l'heure. Elle semble avoir repris possession de ses facultés. « 165 ?» répète Linus. « Tu es admise en sphère 1. Toutes mes félicitations !» La fille le dévisage, interloquée. « En sphère 1, » dit-elle. Autour d'eux, il y a un murmure, comme si la salle sortait enfin du sommeil. « Alors, l'encourage Linus, tu dois être contente !» Un pâle sourire passe sur le visage de la fille. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Je pensais que... Enfin, je ne m'attendais pas. » D'autres enveloppes s'ouvrent dans tous les coins de la salle, et le petit shrip de papier est suivi à chaque fois de l'annonce d'un chiffre. « 120 !» dit quelqu'un, un sanglot dans la voix. « 155 !» exulte un autre. « 140 !»« 180 !» Une agitation fiévreuse s'est emparée des candidats. Les chiffres tombent, les enveloppes sont mises en pièces, les larmes coulent. Debout au milieu des exclamations et des pleurs, Linus regarde fixement sa propre enveloppe. La petite renfrognée le tire par la manche et lui désigne Adélie qui, d'une main tremblante, extrait la feuille de son enveloppe. « Combien ?» interroge doucement Linus. « Il n'y a pas de chiffre, » murmure Adélie. Linus se penche au-dessus de son épaule. « C'est une erreur, » s'écrie-t-elle. Linus lit avec effroi la mention suivante. « Admission en sphère 3. » Et en tout petit caractère, la phrase « 160 sous réserve de redressement. »« Je ne veux pas y aller !» se met à sangloter Adélie. Tous les yeux sont braqués sur elle. Un garçon au visage réjoui récite d'une voix de tribun. « Tu dois admettre ton résultat. Il est bon pour toi, pour ta famille et pour notre société tout entière. » D'autres opinent du chef. « Mais pourquoi ?» murmura Delly qui s'est effondrée sur son matelas. Cette simple question prouve que tu as besoin d'être redressé en sphère 3, clame le même garçon. Maintenant, tous les candidats du groupe EFG, H, ont ouvert leurs enveloppes, sauf Linus qui ne parvient pas à se décider. Il pense, moi aussi je me suis révolté. Le grand ordinateur l'a sûrement détecté, et je vais être envoyé en sphère 3 avec Shem, et même Yosh, si ça se trouve. Alors tout sera fichu, nous ne pourrons rien changer à ce désastre. Cependant, la petite renfrognée le regarde avec insistance. « Alors tu l'ouvres ?» dit-elle d'une voix cassante. « Ou bien t'as peur de nous dire où il t'envoie ?» Les autres ricanent. « Il est peut-être admis en sphère 4, » rigole quelqu'un. « Chez les fous, regardez-le, il a un drôle d'air. » Linus baisse les yeux. « Qu'on en finisse. » Et d'un geste rapide, il ouvre son enveloppe sans respirer. « 140. » Les trois chiffres dansent sous ses yeux. « 140, » répète-t-il. « Admis en sphère 2. »